One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touchdown Actu. On est bientôt au week-end du Super Bowl et oui, entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers à Las Vegas. Vu que Victor Rouillet est à Las Vegas et vu que Jean-Michel n'est pas encore disponible, je suis là en train d'animer ce nouveau podcast. On va faire une petite pause par rapport à San Francisco, par rapport à Kansas City. Vous en avez peut-être un peu marre de parler de ces deux équipes. Donc, on est là pour les 30 autres équipes qui s'intéressent probablement à la draft. Et à mes côtés, donc moi-même déjà, Nitinia Simiong, et à mes côtés, bah, Grégory Richard est avec moi. Salut Greg.
Salut Niti, bonjour à tous. C'est incroyable, ces gens qui, sous prétexte d'aller au Super Bowl, on oublie la couverture des joueurs universitaires. Victor Rouillet qui oublie d'où il vient. Mais on en profite pour le saluer bien bas.
Exactement, on le salue Victor pour ce week-end en espérant qu'il nous fasse encore de très belles photos, de très bons reportages. Mais, de toute façon, vous allez le retrouver de toute façon durant ce grand week-end de Super Bowl. Comme je disais en intro, Greg, on va faire une petite pause préparation du Super Bowl. On va parler d'un autre bowl, on va parler du Senior Bowl. On a déjà évoqué le Senior Bowl il y a la semaine dernière avec Victor. On a évoqué 4 prospects. Manque de peau, ces 4 prospects, ils ont peu, voire très peu vu le terrain, à l'image notamment de Tyler Guyton. On a vu peut-être sur un ou deux snaps en attaque. On a vu aussi que Enes Raquestro Jr. a déclaré forfait puisqu'il s'est blessé. On va parler de nouveau de 4 joueurs. On va faire un peu notre top et flop de ce Senior Bowl. Et on va commencer, Greg, si tu veux bien, par un quarterback, puisque c'est la couverture de notre article du podcast, c'est Spencer Rattler. Ce nom vous dit peut-être quelque chose du côté des fans de Netflix, pour ceux qui ont regardé la série Apprenti Quarterback. Spencer Rattler, donc quarterback aujourd'hui de South Carolina, qui va jouer en NFL la saison prochaine. Spencer Rattler, il a réalisé une très très belle partie, un très bon premier quart-temps durant ce Senior Bowl, et même lors des entraînements, il a été plutôt efficace. Grégory, Spencer Rattler, dans sa carrière universitaire, a eu des hauts et des bas. Là, on est plus vers le haut. Est-ce que il pourrait titiller des quarterbacks pour ne serait-ce que s'inviter au deuxième tour?
Alors ça, c'est une excellente question, notamment la question du tour, parce que c'est vrai que c'est ça aussi la question, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui en effet vantent le travail qui a été fait tout au long de la semaine, par Spencer Rattler et qui a été concrétisé notamment à l'occasion de ce match, avec notamment cette passe de touchdown à destination de Marcus Rosemi-Jackson, si je me rappelle bien.
Oui.
Avec un lancer quand même qui n'était pas évident au duel avec le défenseur. Donc voilà, ça insiste un peu plus sur les qualités intrinsèques qu'on ne découvre pas de la part de Spencer Rattler. C'est vrai que son gros problème, malheureusement, quand on regarde son cursus universitaire, c'est son inconstance. On rappelle que c'est quand même un joueur qui a perdu sa place à Oklahoma à l'époque au profit de Caleb Williams dans un match qui n'était pas tout à fait anodin parce que c'était le fameux classique contre Texas, la rivalité incontournable d'Oklahoma en college football, donc un match à très haute pression qui peut donner potentiellement une indication sur ce qu'il peut faire à l'échelon professionnel. Et puis c'est vrai que du côté de South Carolina, alors c'est sûr qu'on peut avoir quelques petits bémols. La ligne offensive était clairement pas bonne l'année dernière du côté des Gamecocks. Il y a des changements de coaching staff, etc. Donc en soi, c'est sûr qu'on se dit que ça peut être une bonne option. Un quarterback titulaire, je ne sais pas à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'avoue que le statut de deuxième tour aujourd'hui, je titille un peu. Après, on a évidemment de quarterbacks draftés relativement haut l'année dernière en quatrième tour. Que je me dis que le voir, par exemple, sélectionné au troisième, c'est pas la chose la plus farfelue à l'heure actuelle pour répondre clairement à ta question.
Bah surtout que si on va un peu plus loin que le Senior Bowl, alors MVP en plus hein, du Super Bowl, hein, alors un carton 4 sur 4, 65 yards hein, pour les infos un peu statistiques. Mais si on va un peu plus loin, sa saison à South Carolina n'est pas si mauvaise hein, par rapport à ce qu'il a fait lors de ce Senior Bowl. On va dire un peu que ce Senior Bowl est un peu la confirmation un peu de la résurrection, parce que comme tu as dit, il était vraiment au plus bas après son transfert à South Carolina. Il s'est vraiment bien rattrapé hein, cette saison. On a vu des choses qu'on n'a pas vues dans sa jeunesse ou même dans le documentaire Netflix où il a semblé arriver peut-être à maturité.
Bah, en fait, son gros problème, on va le dire clairement, et c'est aussi pour ça que alors, je pense qu'il a beaucoup polarisé pour ceux qui l'ont vu quand le reportage est sorti en France et forcément outre-Atlantique. C'est sûr que c'est un quarterback qui ne va pas laisser indifférent. Comme on dit, voilà. il a son franc parler, il a un certain ego, hein, disons clairement ce qu'il est. Il aurait pu jouer receveur dans sa carrière.
C'est vrai.
Mais
ça on verra après. Ça,
voilà. Mais encore une fois, ça va avec le fait que c'est aussi un joueur qui connaît ses qualités et qui sait ce qu'il est capable de faire. Après, c'est sûr que par rapport à ce que tu disais, les deux dernières années à South Carolina, je parlais de la O-line l'année dernière, il a eu beaucoup de problèmes avec le jeu au sol. L'année dernière, beaucoup de problèmes pour avoir un coureur numéro 1. L'année d'avant, c'était Marshawn Lloyd, qui se présente d'ailleurs cette année et qui est à USC, mais qui s'était blessé à South Carolina, qui a accumulé beaucoup de pépins physiques du côté des Gamecocks. Donc c'est sûr qu'encore une fois, c'est lui mettre beaucoup de pression sur les épaules dans un système auquel il doit s'acclimater, dans une nouvelle formation. Et on n'a pas vu que du mauvais en effet, parce que certains se rappelleront peut-être de cette fin de saison 2022 où South Carolina marchait vraiment sur l'eau. Il y a une victoire notamment sur le terrain de Clemson. Enfin, il y a vraiment des succès à référence dans une période où Spencer Rattler a été extrêmement prolifique et arrivait à apporter un certain rythme à cette attaque et à développer pas mal de receveurs. Hein. Alors, il se présente pas forcément cette année, mais on pense à Antoine Wells en 2022. Jaim Bell également, et qu'il a pu évoluer en 2022 et qu'on verra sur la cuvée de Tyden.
Qui se présente également.
Voilà, qui est parti entre-temps du côté de Florida State, mais qui en 2022 a été pas mal sollicité par Spencer Rattler. Et puis Xavier Leggett également, qu'on a pu apercevoir en Senior Bowl, qui a également profité de sa bonne connexion avec Rattler. Donc c'est sûr qu'il n'y a clairement pas que du mauvais, et c'est en ce sens qu'on peut se dire que Rattler a un potentiel malgré tout, même s'il y a eu beaucoup d'embûches et beaucoup d'obstacles, on dira, durant son cursus universitaire.
Voilà, au dépit du cursus universitaire, de toute façon, Spencer Rattler va être un nom à surveiller, clairement, même le jour même, hein, lors de la draft, pourquoi pas au premier tour, hein, peut-être entendre son nom, et nous, on va avoir probablement les gros yeux lorsqu'on va entendre son nom, mais le voir dans les trois premiers tours ne serait pas une surprise, on va dire, au vu en tout cas de son processus draft, qui pour l'instant,
en fait, si tu veux, si tu me permets, Didier, pour finir là-dessus, c'est vrai qu'on a un top 6 qui est assez établi à l'heure actuelle sur le poste de quarterback. J'ai du mal à voir aujourd'hui quelqu'un devant lui sur le 7e spot. On parle un peu de Michael Pratt. Ouais. Je pense que les prestations de Joe Milton et de Sam Hartman, surtout sur le Senior Bowl ce week-end, jouent clairement pas en leur faveur pour vraiment bousculer potentiellement la hiérarchie. Donc je pense qu'en effet, Spencer Rattler est peut-être le meilleur des autres, on dira. Celui qui, sorti du premier, deuxième tour, a clairement une carte à jouer pour potentiellement aller chercher une place dans une autre équipe.
Voilà, exactement, et on va en tout cas continuer à le suivre durant tout ce processus draft, notamment le combine qui va arriver dans un mois, quasiment jour pour jour. On va parler d'un autre top, cette fois-ci de l'autre côté du terrain, on va aller sur la ligne défensive, Greg. Il nous vient du Missouri, c'est Darius Robinson. Alors il faut le dire, Darius Robinson, il a vraiment brillé déjà lors des entraînements, mais il a aussi brillé lors du premier carton, hein, il me semble, hein, du match. Alors, je ne sais pas si voilà, il a joué effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que même cette saison et même durant ce Senior Bowl, Darius Robinson, déjà rien que l'envergure on se demande pourquoi on le considère que maintenant, alors que lors de la saison, c'était peut-être presque déjà un joueur à considérer peut-être dès le deuxième tour, voire dès le premier tour.
C'est une excellente question. Alors, j'avoue, j'ai beaucoup hésité sur le choix du lineman défensif parce que j'aurais très bien pu citer, par exemple, un Braden Fiske de Florida State qui non seulement a brillé pendant la semaine et en match, sachant qu'on a été dans une situation assez ubuesque. Je crois que c'était la première fois que ça arrivait lors du Senior Bowl qu'on avait un joueur à qui on demandait de changer d'équipe en cours de route parce que il y avait beaucoup de joueurs qui finalement devaient faire l'impasse sur la rencontre. En tout cas, il y avait un nombre insuffisant de linemen défensifs dans l'effectif en face. Et on voit que, ça c'est clairement un point sur lequel les équipes vont s'appuyer parce que la capacité d'adaptation du bonhomme est assez notable. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avec lui. On sait en plus que c'est un ancien transfert, un ancien de Western Michigan qui est parti à Florida State et qui a brillé à Florida State l'année dernière. Donc voilà, c'est vrai que ça me paraissait important de le mettre à l'évidence. Après, pour revenir au sujet principal, à savoir Darius Robinson, en effet, on est sur un joueur qui s'est un peu révélé sur le tard, mais dont on se rend compte qu'il y a un tel talent, une telle maturité depuis cette saison dans une défense de Missouri qui certes a vu pas mal de joueurs assez intéressants. Vous parliez de Nick Renstro et en effet, tu le disais, il y a eu sa blessure malheureuse qui l'a empêché de participer à ce match-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de regards qui étaient portés notamment sur Chris Abramsdrain, qui est peut-être un peu moins finalement le spécimen athlétique auquel on pouvait s'attendre, même s'il y a encore le processus du combine. Mais c'est sûr que sur cette ligne défensive, ce qui est intéressant avec Darius Robinson, c'est qu'il sait faire beaucoup de choses et surtout il est très c'est un profil extrêmement hybride, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans cette mouture des linemen défensifs modernes qui ont des gabarits de defensive tackle mais qui peuvent évoluer sur l'extérieur s'il y a besoin, qui ont une panoplie de moves assez élaborée et qui vraiment arrivent à se distinguer dans n'importe quelle situation. Et c'est là où on se dit qu'en effet, vu son gabarit et vu ce qu'il est capable de faire sur un terrain, un deuxième tour, ça paraît un minimum. Le premier tour, vu la classe actuelle des edge et des linemen défensifs, c'est pas farfelu de l'imaginer.
En tout cas, tu le dis très bien, la polyvalence, c'est peut-être ça qui pourrait le faire basculer vers le premier tour. Et toi, idéalement, dans un schéma, on va dire NFL, donc, dans ce cas-là, son meilleur poste, ce serait quoi ? Defensive end ou defensive tackle ? Et quel schéma, surtout ?
Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en NFL, on a des systèmes qui sont tellement protéiformes, si je peux dire, que c'est vrai que c'est compliqué de l'enfermer un peu dans un schéma, mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut très bien jouer defensive end sur une 34, par exemple. Hein, je regardais un petit peu les similitudes. Alors, c'est pas l'exercice que je préfère, les comparaisons, mais il y a des choses qu'on retrouve, par exemple, dans ce que pouvait faire un Logan Hall il y a quelques saisons du côté de Houston. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances également. Alors, le gabarit est sans doute pas le même.
Pensais à Denico Autry.
Denico Autry, oui. J'allais dire Calais Campbell aussi. C'est peut-être un petit peu. Mais dans ce côté vraiment où il a joué defensive end en universitaire, mais on sait qu'il est capable d'évoluer beaucoup plus sur l'intérieur et de faire un nombre de choses assez impressionnantes, d'être efficace contre la course, contre la passe, d'avoir vraiment un panel extrêmement large. Et ça rejoint les exemples qu'on citait, mais des joueurs qui sont capables, en effet, d'évoluer principalement dans un rôle de defensive end 34, mais qu'on peut plugger, entre guillemets, qu'on peut placer absolument partout. Dans n'importe quel schéma, justement pour brouiller les cartes du quarterback et ne pas savoir concrètement l'assignation qui va lui être donnée sur ce type de jeu. Darius Robinson peut remplir ce rôle-là et c'est en ça qu'il représente une denrée globalement rare, même si on est sur une bonne classe de defensive linemen, selon moi, une classe assez profonde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va jouer pour lui. Si tu prends une autre comparaison sur cette classe, et je terminerai là-dessus, un Brandon Dorlus, par exemple, d'Oregon, qui est un peu plus léger, mais qui présente à peu près les mêmes capacités, on dira. On sent que le profil athlétique est pas le même et que du coup, ça pourrait diminuer un petit peu l'utilisation qui en sera faite en NFL. Darius Robinson, on a ce fameux plafond par rapport à ces différents rôles qu'il peut avoir et c'est en ça que ça peut exciter, si je peux parler ainsi, certaines franchises.
En tout cas, Darius Robinson sur la ligne défensive, on a Jerzan Newton qui est devant. On verra si Darius Robinson passera devant sur le fil, on va dire, en avril prochain. En tout cas, un profil à surveiller. lors du process draft, lors du combine évidemment, mais aussi lors des entretiens, à voir si une équipe tombera amoureuse d'un joueur qui vraiment est imposant, voire assez polyvalent et donc très physique. On va passer à nos flops de ce Senior Bowl et en attaque. Il y en a eu des flops, on a cité les quarterbacks hein, forcément, mais on va pas insister dessus, on va plus insister sur un receveur qui a fait plutôt une bonne saison à North Carolina. Il a eu une histoire un peu tourmentée avec la NCAA cette saison, c'est DeVontaeze Walker, le receveur de North Carolina. On l'a vu face à des cornerbacks qui pourtant ne sont pas des cornerbacks qui vont spécialement être dans les premiers tours de la draft. Et Greg, on peut le dire, il a eu beaucoup de mal, DeVontaeze Walker, en tout cas sur ce match.
Bah, malheureusement, je dirais même que sa semaine globalement a été assez décevante parce que c'est vrai qu'il y a des. Ce qu'on lui reproche principalement, c'est notamment des drops. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense que tu t'allais sans doute développer là-dessus parce que c'est principalement toi qui l'avais placé en flop. Mais je suis clairement d'accord vu ce qui en est, vu ce qui en est ressorti et surtout vu ce qu'on a vu globalement de cette classe de receveurs lors du Senior Bowl. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, on a eu pas mal de belles surprises globalement. Il y a des joueurs qui ont marqué des points. Je pense à un Roman Wilson, le joueur de Michigan. Ouais. Qui vraiment, voilà, on connaissait le potentiel, notamment athlétique, en termes de vitesse. Enfin, on savait que c'était un des tout meilleurs et un joueur notamment surveillé au combine par rapport à ça. Mais il a montré vraiment une polyvalence encore plus intéressante, même sur des duels avec Quinion Mitchell, par exemple, qui était un des corners les plus suivis cette année. Clairement, DeVontaeze Walker, malheureusement, c'est pas une semaine qui a joué pour lui pour de multiples raisons. Des problèmes de main, beaucoup de problèmes de drop. Et surtout, et c'est peut-être en ça que c'est problématique encore plus, ces problèmes de réception, les capacités de séparation. Pour un joueur qui est principalement censé être utilisé dans la profondeur, on n'a pas vraiment senti une aptitude à prendre de vitesse son vis-à-vis, à s'en séparer après 5 yards. Et malheureusement, bah, si t'es pas capable de prendre de vitesse ton adversaire et que sur des ballons à 50-50, et bah, tu t'en récupères à peine un quart, ça commence à faire un petit peu léger. Après, pour terminer là-dessus, c'est vrai que moi, ce qui m'a un petit peu chafouiné, on dira, sur le match en lui-même, sur son utilisation, c'est que c'est vrai qu'on était un peu trop sur du Jalen Hyatt style, c'est-à-dire que, bah, on lance profond et on voit ce que ça donne. Et comme je l'ai dit, Sam Hartman, c'était pas fabuleux, donc les passes profondes l'étaient pas non plus. Mais ça explique pas forcément les drops réalisés par Walker sur ce match.
C'est ça, c'est à se demander si finalement sa position principale n'est pas plus dans le slot que à l'extérieur. Mm-hmm. Donc finalement, est-ce une mauvaise utilisation de DeVontaeze Walker? Et donc la conséquence est peut-être qu'il a été donc mal utilisé et donc forcément il n'a pas brillé. Mais malheureusement, en NFL, on te catégorise dans une catégorie. Et malheureusement, c'est un peu dur d'en sortir. À North Carolina, il était aligné à l'extérieur. On le voyait assez grand. Mmh. Déjà, je pense que dès la mensuration physique, c'était déjà mal parti pour lui. J'ai vu passer effectivement le tweet du Senior Bowl sur les mensurations de DeVontaeze Walker. Et je t'avoue que j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu de ces mensurations déjà. Et puis sur le terrain et dans les entraînements, malheureusement, c'est un peu confirmé. Tu l'as dit peut-être, le défaut, et on l'a déjà dit, son défaut, c'était ça, la séparation. Et là, clairement, pour quelqu'un qui est censé être une menace profonde, c'est vrai qu'il n'a pas marqué beaucoup de points. Mais est-ce que c'est son poste, finalement, être aligné à l'extérieur? Ça, c'est une question qu'on va devoir se poser dans le processus draft.
Ouais, en fait, c'est sûr que faut aussi rappeler, c'est vrai qu'il y a eu un parcours extrêmement tortueux. Tu le mentionnais en introduction. Mmh. Il y a eu à peine, il a joué à peine la moitié de la saison du côté de North Carolina pour des soucis administratifs. Et avant ça, il y a à peine une saison, je crois de mémoire, du côté de Kent State. Donc c'est vrai que l'échantillon, malgré tout, est relativement léger et relativement infime malgré tout par rapport à d'autres joueurs du poste. Et ce souci d'apprentissage, mine de rien, même si c'est un joueur qui reste capable d'énormes fulgurances, voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas acquises, mais c'est vrai qu'encore une fois, on parle de choses élémentaires. La vitesse, la capacité de séparation et surtout, la qualité pour réceptionner les ballons. Bah, si t'as pas ça en NFL, avec toutes les fulgurances que tu peux avoir et tout le potentiel éventuel, c'est pas avec ça que tu vas réussir à suivre des équipes. Encore une fois, dans une classe de receveurs qui est extrêmement profonde, et on parlait jusqu'à il y a quelques heures peut-être d'un statut de début de deuxième, peut-être fin premier, hein, parce que ça se disputait avec certains. Clairement. Là, je pense qu'il est clairement retombé à minima au troisième tour.
Ouais, on va voir si il se ressaisit. On va dire le processus est encore très long. Il y a encore les entretiens, il y a encore le combine. Mm-hmm. Donc, il va devoir miser là-dessus puisque, comme tu l'as dit, l'échantillon en plus il est léger Et vu qu'au Senior Bowl, il n'a pas montré grand-chose, donc on espère un rebond de sa part. Un rebond aussi espéré pour un autre joueur. Allez, on va aller de l'autre côté du terrain et du côté d'un cornerback. Si vous en souvenez très bien, il y a un an, lors de la première mock draft 2024 sur Twitch, on l'avait classé 10e. Mm-hmm. 10e dans le top 10. Et là, est-ce qu'il fera au moins un troisième tour? Alors là, la question pourrait être posée, puisque durant les entraînements et durant même le match, Kalen King, donc le cornerback de Penn State, a montré beaucoup de limites en tout cas. Et Greg, clairement, pour un cornerback qui est pourtant aligné à l'extérieur à Penn State, qui a des dimensions physiques en dessous pour un cornerback extérieur et même plus adapté au slot, en tout cas pour la NFL. Kalen King ne s'est pas montré déjà sous son meilleur jour, on va dire, durant la saison à Penn State, notamment bien mangé par Marvin Harrison Jr., le receveur d'Ohio State. Et là, au Senior Bowl, il s'est fait manger par des receveurs comme Roman Wilson, comme Ricky Purcell de Florida, comme même Ladd McConkey de Georgia. Bref, il a passé une très mauvaise semaine, Kalen King.
Du coup, c'est pas rassurant parce que tu dis à raison qu'il faut l'envisager dans le slot. On a beaucoup de slot receivers quand même qui l'ont malgré tout un petit peu burné sur cette semaine-là.
Ouais, qui l'ont mangé, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est, oui, pardon pour mon anglicisme, mais
ouais,
c'est vrai que...
Il n'y a pas de souci.
En fait, oui, je faisais partie de ces believers, en effet, de ces joueurs, de ceux qui croyaient en sa cause.
Ouais.
Voilà, ouais. L'année dernière, je faisais partie de ceux pour qui un top 10, c'était clairement pas farfelu dans mon esprit. Mais c'est vrai que là, il y a une autre question qui m'interroge un peu plus, et ça fait écho à ce que tu disais, notamment sur ce duel en un contre un avec Marvin Harrison Jr., où clairement, il n'y a pas eu match face à Ohio State, malgré le talent indéniable du bonhomme. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai milité pour Marvin Harrison Jr. tout au long de la saison pour être meilleur joueur universitaire, sans manquer de respect à Jaden Daniels et son énorme saison. Pour moi, il est numéro 1 de mon big board à l'heure actuelle et je pense qu'il le restera jusqu'au bout, sans spoiler un petit peu. Donc voilà, c'est pas uniquement sur ce match-là, sur ce duel-là, que je me fais un avis, une décision finale sur Kalen King. Le souci, en effet, et ça commence à faire un petit peu beaucoup sur le tableau, c'est que tu te rends compte que dès qu'il y a un petit peu de pression et un événement assez notable, c'est un joueur qui semble un petit peu perdu en termes de couverture. Je suis scout dans une équipe NFL aujourd'hui, je me dis on l'attend contre Ohio State, il est pas là, et on l'attend au Senior Bowl justement pour faire taire les détracteurs. Et en effet, parmi les cornerbacks, même certains plus anonymes qu'on joue au cours de ce week-end, c'est un de ceux qui est le plus en retrait, quoi. Donc c'est problématique de se dire ça pour un joueur qui devait jouer sa revanche, au moins à minima une place peut-être dans le top 50 de la draft. Là on en semble assez loin, et en effet va falloir réussir à trouver sa meilleure utilisation. Je continue de me dire que peut-être à la fin du deuxième jour, je parle vraiment à l'heure actuelle, à la fin du deuxième jour, ça peut être un pari tenté par certaines franchises. Mais c'est vrai que là, va falloir se ressaisir un petit peu, parce que autant il y a des joueurs qui montrent une progression constante, malheureusement, Kalen King, on a l'impression qu'on est vraiment dans le sens inverse. Et c'est ça qui est inquiétant.
En tout cas, sa taille et ses dimensions physiques déjà n'aident pas. Et en plus, en NFL, quand tu te fais, on va dire, battre par des receveurs qui sont pourtant pas les receveurs les plus, les plus élites, en tout cas les meilleurs receveurs de la QV, certains recruteurs pourraient se poser la question, pourraient même faire une croix sur lui, tu vois. Donc là, c'est déjà un vrai problème. Et en plus, il a montré, alors déjà qu'il était déjà très limité en couverture, mais alors là, le point faible, il est là. En plus, le plaquage n'était pas forcément terrible non plus. Donc il a quand même fait beaucoup d'erreurs dans ce Senior Bowl. Et il a intérêt à ce que dans le processus draft, que les qualités athlétiques viennent le sauver, entre guillemets.
Mais c'est ça, et on parle vraiment de choses élémentaires, globalement, pour un corner dans la NFL aujourd'hui. Tu parles du plaquage, je veux dire, j'ai plus le terme en français, le backpedal, enfin en tout cas, la manière de les appuis, tout
le
simplement.
Le rétropédalage.
Les appuis sur les premiers mètres pour vraiment tenir en respect son receveur, ou en tout cas être capable d'anticiper son tracé, d'avoir le meilleur positionnement possible pour anticiper son tracé. Ça, on sent que c'est extrêmement compliqué. Et puis même d'un point de vue vision du jeu, repères spatiaux, si je peux parler ainsi, on a l'impression que des fois, sur certaines séquences, c'est un joueur qui a l'air un peu perdu, quoi. Et c'est sûr que voilà, c'est pas un joueur, à l'heure actuelle, bon, en qui tu peux avoir extrêmement confiance, c'est te dire, bah, en homme à homme, tu vas couvrir sur du jeu profond, sur tel receveur, quoi. Parce que tu sais qu'il y a une chance sur deux pour que ça se passe très très mal. Encore, je suis très gentil sur mon pourcentage. Mais voilà, aujourd'hui, ouais, très clairement, on est d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être des qualités athlétiques, même si tout n'a pas été rassurant en termes de mensuration, et, bon, effectivement, mais encore des qualités athlétiques qui peuvent le sauver et certaines équipes qui peuvent se dire, bon, c'est ça. Nous, on pense, parce qu'il y a toujours des coachs plus intelligents que d'autres, qui peuvent se dire, nous, on pense qu'on peut en tirer plus que ça. Mais c'est vrai que, voilà, intrinsèquement, là, comme je le disais, la trajectoire est pas fabuleuse vu ce qu'on a vu en 2023 et ce qu'on voit ces dernières semaines.
Bah, surtout dans une cuvée de cornerback qui va être très profonde et qui est riche en qualité. Mm-hmm. Là, on va dire en termes de points, il n'a pas forcément embarqué beaucoup. Et ça, franchement, c'est regrettable. Surtout que là, il commence très mal son processus de draft. Et ça ne serait pas étonnant donc, de le voir drafté finalement qu'au troisième jour, aux alentours du quatrième, cinquième, sixième tour. Ok, ben on a fait le tour des joueurs du Senior Bowl. Ben Greg, en tout cas, je te remercie d'avoir été là pour suppléer Victor ou Jean-Michel. Enfin bref, vous les retrouverez de toute façon les deux au cours des pastilles draft, d'ailleurs que tu vas animer aussi durant tout ce processus. On aura notamment 3 podcasts draft par semaine, pour info. Ça va être un processus vraiment idéal à suivre pour ceux qui ne connaissent pas encore les prospects qui vont arriver en NFL. Vous pouvez retrouver Touchdown Actu sur le site internet touchdownactu.com. Évidemment, les réseaux sociaux suivent bien la couverture du Super Bowl par notre ami Victor Rouillet. Évidemment, restez à l'écoute aussi sur la chaîne touchdownactu.com. Il y aura des podcasts, il y aura le fauteuil évidemment spécial Super Bowl ce week-end dimanche animé par Raoul en tout cas, et on vous souhaite un très bon Super Bowl à tous. Greg, un petit pronostic pour le vainqueur? Je sais qu'on l'a déjà dit, je pense le vainqueur
Non, j'irai avec Kansas City personnellement, mais du coup c'est un podcast qui va très mal vieillir, je pense.
Ouais, je pense aussi. Ok, et ben passez un bon week-end du Super Bowl. C'était la dernière de la saison, en tout cas pour ce podcast draft dans ce format. Le prochain podcast, c'est probablement le podcast de position. Oui. Désormais, on va commencer par quarterback, c'est bien ça, Greg?
Oh bah écoute, tant qu'à faire. Ouais. Il paraît que c'est assez suivi par pas mal d'auditeurs, et voilà. Exactement. Mon petit doigt me dit qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont loucher sur ce poste-là pendant l'intersaison.
Exactement. Et on vous souhaite un très beau week-end, un très bon Super Bowl. À bientôt. Salut.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.